Bonjour Kenneth, tu es docteur en littérature comparée humanité environnementale. Tes domaines d'expertise sont l'environnement, le climat et l'écologie, entre autres. Donne-nous un aperçu, s'il te plaît, des enjeux environnementaux et climatiques auxquels l'Afrique doit faire face.
Aujourd'hui, dans le monde entier, en dehors du terrorisme, les enjeux liés au réchauffement climatique, à la perte de la biodiversité et à la dégradation écologique sont les défis majeurs. Ce sont donc des défis qu'on ne peut pas s'en passer. Et lorsqu'on regarde donc ce qui se passe aujourd'hui, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de urgence dans le monde d'aujourd'hui, les guerres et le terrorisme mis à part qui ont la même ampleur comme la crise climatico-environnementale ou écologique. Parce que nous sommes en train de vivre les hausses des températures jamais vues dans l'histoire humaine. Si rien n'est fait, d'ici 20 ans, on va dépasser les 1,5 degrés Celsius de température, qui est, disons, l'objectif de l'accord de Paris sur le changement climatique, et qui, une fois qu'on aurait dépassé ces limites-là, pour la plupart des humains et des non-humains, la Terre qui nous abrite tous deviendra beaucoup plus invivable, insoutenable. Alors, si on parle aujourd'hui, donc, de quoi que ce soit l'urbanisation, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'éducation, que ce soit le transport, que ce soit le textile, les industries d'habillement, que ce soit l'agriculture, l'élevage, il n'y a aucun secteur d'activité humaine qui n'est pas concerné. Parlant de villes intermédiaires africaine, on voit clairement qu'il y a deux enjeux écologiques, il y a des enjeux climatiques, notamment au niveau de la construction de l'habitat humain qui est pour la plupart du temps quelque chose qui va avec la déforestation, le déboisement anarchique et qui cause d'autres problèmes, notamment la pollution de l'air, la pollution de la terre, la pollution des eaux, qui cause aussi parfois les inondations, surtout lorsqu'il s'agit de l'urbanisation non planifiée. On a d'autres problèmes, la destruction ou la réduction des espaces verts, dont il y a la perte de la biodiversité. Il y a aussi les problèmes liés même à la mobilité, par exemple l'utilisation des véhicules avec les pétroles ou les énergies, disons entre guillemets sales, ou je fais référence donc aux énergies renouvelables qu'on appelle aussi parfois les énergies propres. Ce qui veut dire que plus on a donc les gens qui viennent vivre dans nos villes, que ce soit des villes primaires, des métropoles ou des villes secondaires intermédiaires, il y a déjà des soucis. Comment donc voir des villes où il est possible de recevoir tous, non seulement les humains, recevoir ceux qui viennent du monde rural, recevoir ceux qui viennent comme des touristes, recevoir aussi des non-humains, parce qu'à tout moment, il faut toujours maintenant mettre en tête que nous ne sommes pas, nous, en tant qu'espèce humaine, ne sommes pas les seuls qui habitons cette terre. Nous habitons la terre en partage avec d'autres êtres vivants et même des êtres non vivants. Et donc, là, je pense que en matière de planification des villes africaines secondaires ou intermédiaires, il serait donc toujours important de mettre les questions climatiques, les questions environnementales au cœur de tout, parce que les villes sont à la fois la croissance des villes, l'étalement des villes, c'est à la fois une cause de ces problèmes, mais peut aussi être une forme de solution, et tout dépend de comment on essaie donc de tirer profit au niveau de la planification. Alors, je vais donc proposer qu'il est toujours important, parce que d'abord, au niveau même de l'information et de la communication, pour la grande partie de la population du continent africain, c'est vrai, le changement climatique n'est pas encore à la une. C'est beaucoup plus à la une dans des cités et beaucoup plus au niveau, disons, des gouvernements, avec ce que j'appelle une communication orientée vers l'extérieur, orientée vers l'international. Alors que c'est déjà établi clairement par des scientifiques que l'Afrique est le continent le plus touché et le plus vulnérable aux effets du réchauffement climatique, et en même temps le continent qui a le moins contribué à l'émission des gaz à effet de serre qui ont causé donc cette crise. Alors, il est très important, en même temps que je le souligne, que l'Afrique n'est pas seulement cette victime. L'Afrique a aussi beaucoup à offrir en termes de ses forêts tropicales, telles que celles du bassin du Congo, qui stockent beaucoup de gaz. L'Afrique a aussi les plus grandes tourbières du monde dans le bassin du Congo. Et il y a aussi des initiatives telles que la Grande Muraille Verte pour le Sahel et le Sahara. Tout ça là, c'est pour dire que l'Afrique est un acteur majeur, un acteur incontournable dans la transition vers un monde durable, vers un monde qui est beaucoup plus vivable. Il faudrait qu'on mette aussi l'accent sur l'inclusion des thématiques climatiques, écologiques dans les formations partout en Afrique, mais aussi que les journalistes prennent cela en compte sérieusement pour que la population devienne de plus en plus consciente, non seulement qu'ils sont victimes, mais qu'ils sont aussi des acteurs et qu'ils ont des choses, qu'ils ont des solutions à apporter en matière de leur forêt, de leur tourbière, mais aussi de leur capacité de résilience et d'innovation et de créativité. Et il faudrait aussi concentrer les efforts pour aller beaucoup plus vers les énergies renouvelables pour les besoins du transport, les besoins de l'habitat dans nos villes en Afrique. Et je pense surtout au fait qu'il y a une abondance du soleil et une abondance du vent en Afrique qui sont donc des sources des énergies renouvelables, sans même oublier. Et en plus, il faudrait aussi permettre aux citadins d'avoir plus de choix. C'est-à-dire, il faut des espaces pour citoyens d'utiliser par exemple les bicyclettes. Il faut encourager par exemple l'utilisation de bicyclettes et aussi mettre un accent sur la sécurité, parce que plus les villes sont dans la sécurité, plus les gens peuvent aussi se sentir libres de marcher, de ne pas emprunter les véhicules ou les motos, taxis, mais plutôt parfois même dans la nuit de pouvoir regagner le domicile à pied, qui est un plus pour leur santé, mais aussi pour la santé de la terre. Et il est aussi important donc de penser à faire en sorte qu'avec la planification de nos nouvelles villes, qu'il y ait la cohabitation, que les villes futures ne soient plus seulement le lieu où on n'a que les humains et les maisons, mais où on a le partage entre les maisons pour les humains, mais aussi les espaces verts, les réserves pour les animaux sauvages, la faune, la biodiversité en général. Et que de plus en plus, il faut que les villes soient planifiées de manière à ce qu'il n'y ait pas d'étalement qui va toujours avec la destruction de la nature, de la biodiversité. Et il faut aussi repenser nos manières de consommer, de manger, qu'est-ce qu'on mange dans les villes et qu'est-ce que cela contribue à cette crise. Et parce que il faudrait des changements aussi comportementaux pour savoir que, pour devenir beaucoup plus conscient du fait que chaque geste que nous posons individuellement a un impact sur la crise, soit dans le sens positif de l'adaptation et de l'atténuation, soit dans le sens négatif de l'aggravation de la situation. Et lorsqu'on aura donc pris en compte toutes ces choses, toutes ces solutions, je crois qu'on va contribuer de manière significative à faire face à cette crise qui est à la fois globale mais aussi locale.
Note vocale, édition spéciale. Les nouvelles voies qui transforment les villes africaines.